aujourd'hui, j'aurais parlé à mon père. J'aimerais lui raconter ce que j'ai fait ces 16 dernières années. Papa, tu sais, quand t'as fermé les yeux, mon monde s'est écroulé. J'avais bientôt 15 ans et tu n'étais plus là. Je commençais à peine ma vie, je fais à peine mes premiers écarts de conduite. Je découvrais ce que c'était qu'un petit garçon. Je commençais à vivre l'adolescence. Et quelques semaines juste avant que tu ne puisses me quitter, tu découvrais que j'avais une copine et que c'était pour ça que je rentrais tard. Je n'avais jamais autant eu honte. Je me rappelle que je t'avais même demandé de l'argent ce jour-là. Je voudrais te dire que après que tu as arrêté de te battre, je te voyais chaque fois que j'étais ivre. Parce que quand t'es mort, j'ai sombré dans l'alcool. Je commençais à boire, à picoler. Pendant que l'on pleurait ta perte, moi je vidais mon chagrin dans tes bouteilles que tu gardais dans ce meuble blanc vernisé pour tes convives. Tu te rappelles quand j'étais petit et que je croyais que les deuils c'était des fêtes? Bah quand toi t'es mort, j'ai eu la même réaction en fait. J'ai fait encore les mêmes choses quand tu es mort. Durant les 7 jours quand durait ta vie mortuaire, bah, j'arrêtais d'aller à l'école. Je buvais de l'alcool tous les jours. Et j'avais pris avec moi l'argent que tu gardais à la maison, ce que tu m'avais montré au cas où il y avait une urgence, si quelque chose arrivait. Bah, moi, cet argent-là, je l'avais pris. Je partais avec en boîte. Pourtant, quand tu pleurais. Et. Durant toute la vie, j'étais dehors, loin de la maison. La dernière fois que j'ai vu ton visage dans ce cercueil, avec ta barbe toute blanche, mon cœur s'est arrêté de battre. Devant tous les dignitaires présents, j'avais juste envie de pleurer mon père et oublier la bienséance. Depuis le jeudi 18 mars où t'es mort, tout le monde ne cessait pas de me dire de ne pas pleurer, que je devais pas pleurer, que je devais être fort, que je devais pas me montrer faible devant les gens, qu'il fallait que je reste fort. Mais j'avais juste envie de pleurer. J'avais juste envie de pleurer tellement fort ce jour-là. Je me disais que si je pleurais tellement fort, que tu te reverrais, tellement tu sentirais ma douleur, tellement tu verrais que je souffrais, tu te reverrais, que tu sortirais de ta tombe, que tu sortirais de ce cercueil, que tu reviendrais vers moi. Mais ce jour-là, tu ne t'es pas réveillé. Tu as brisé mon cœur, papa. Toutes ces années, je voulais te parler, alors je te raconte ce qui s'est passé après t'avoir mis en terre. Il y a eu une réunion le lendemain et maman m'a dit de ne pas rester à la maison, de partir, de ne pas assister à cette réunion-là, d'aller loin parce qu'elle pressentait que des trucs pas bien allaient se passer. Je suis rentré le soir à la maison. La réunion, elle était toujours pas finie. Tes cousines du côté de ta maman demandaient à ce qu'on leur sorte. Tout est bien, tout ce que tu avais acheté. Et croyaient même la maison dans laquelle on vivait t'appartenait. Et voulaient qu'on sorte tout est bien, pour qu'ils puissent pouvoir les partager et tout ça là. Et d'ailleurs, je voulais te dire, tu sais, quand t'es mort, Fahim voulait qu'on aille t'enterrer à Doulissi, dans ta ville natale, auprès de ton père, là où t'as grandi, là où t'as vécu. Mais maman, elle craignait, elle avait peur pour nos vies. Et elle avait supplié les autorités de la ville, le préfet et le maire. Tu te rappelles à l'époque, il y avait ce slogan là qui était sorti, il y avait Viodo travaille, Miété soigne. Et pas qu'a fait la loi, tu vois. Et nous étions devenus plutôt très proches avec le maire, le préfet et tout. Et maman les a suppliés de faire en sorte que ton enterrement puisse avoir lieu à Pointe-Noire. Pour que nous soyons épargnés de tout ce qui aurait pu se passer si on était allé à Doulizy, abandonné à nous-mêmes avec, avec ta famille. Mais ce soir-là, beaucoup de choses ont été dites. Comme la coutume, votre coutume, elle exigeait. Il fallait que un de tes proches, un de tes petits frères ou un de tes frères, tes cousins, nous prenne sous son aile, mais personne n'a voulu de nous. Même pour la forme. De ce qu'on m'a dit, c'était prétextant ton rejet pour ta famille, les années avant ta mort. Ta famille maternelle, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était ton argent, qu'on sorte tout l'argent ou autre et tous les biens. Mais là, maintenant, on n'avait rien. On n'avait rien laissé. Il y a eu des attaques mystiques, tu sais, ce jour-là, pendant la réunion. Il y a Inès, elle s'est fait attaquer, elle a fait une crise. Elle s'est retrouvée projetée à plus de 10 mètres de là où elle se tenait, de là où elle était assise. Et elle s'est mise à convulser là au sol et tout. Tes sœurs sont venues à ramasser au sol où elle était et tout. Et elles ont demandé un bout de tissu venant de ton vêtement, d'un de tes vêtements. Et on a pris la dernière chemise, celle que tu portais, tu vois, la chemise avec des danseurs folkloriques qui avaient dessus ta chemise en panne que tu avais ramenée du Sénégal, que tu portais la dernière fois que je t'ai vu à l'hôpital. Ils ont pris cette chemise-là, ils l'ont déchirée, ils ont pris des bouts de tissu, de span de cette chemise et ont commencé à nous les attacher sur les poignets, ce bout de tissu. Comme quoi cela allait nous protéger, cela représentait ton esprit, que tu allais nous protéger de ces attaques et tout. Et puisque les tiens ne voulaient pas de nous, mais maman n'était pas d'accord, elle n'a pas voulu qu'on nous mette ces bouts de pagne à nous, ses enfants. Tous les autres enfants, tous mes autres frères et sœurs qui étaient là avec leur maman, on leurs a mis sur les poignets. Ton oncle, papy JP, il est venu, il a tenu Inès, il a pris du sel, il a parlé en téqué et tout, et paf, tout d'un coup, elle s'est réveillée et a demandé, après, papy JP a demandé à tous les sages qui étaient là, les oncles, les personnes âgées qui étaient là, ils sont allés dans un coin, ils sont allés faire un zonzi, je crois, et il est revenu. Il nous a dit que voilà, que plus rien n'allait arriver, qu'on a parlé avec les anciens et tout. Voilà, ils ont parlé aux esprits pour vous, que rien n'allait nous arriver. Après ça, après ces petits incidents, la réunion a duré encore une petite heure et elle a totalement pris fin. Ils ont dispersé la veillée mortuaire et tout le monde devait rentrer chez soi, toute la famille devait partir. Et tes sœurs, tout le monde était parti, tes sœurs et ta famille maternelle. Le lendemain matin, c'était je crois un samedi, le lendemain matin dimanche, ils embarquaient toutes les couronnes, les fleurs qui ont été déposées, les gerbes de fleurs qui ont été apportées, qui avaient été déposées lors de la cérémonie posthume qui a été faite à ton honneur, où tu avais été décoré à chevalier dans l'ordre de je ne sais pas quoi par le gouvernement à titre posthume. Et elles ont embarqué toutes ces couronnes de fleurs et tout, elles sont parties avec. Et après ça, maman, au vu de l'état dans lequel j'étais lors de ton enterrement, parce que je me suis retrouvé, on va dire, un peu dans un état second, moi aussi, le jour où on te mettait en terre, lorsque nous sommes allés au cimetière. J'avais du mal à contrôler ma peine, ma douleur, mes émotions et tout. Et pour elle, elle se disait que j'étais possédé, qu'il y avait des esprits pas bien qui habitaient en moi et tout. Sous les conseils de des pasteurs de son église, elle a décidé d'aller me mettre dans une maison de prière pendant toute une semaine. Et si cela ne dépendait que d'elle, je serais resté là-bas beaucoup plus longtemps. Mais je ne supportais plus, en fait. C'était un jeûne prière pendant toute une semaine. Elle m'a déposé là-bas un lundi soir. Et j'y suis resté jusqu'au vendredi, sans rien manger, sans rien boire, pendant toute une semaine. Il y avait un programme de prière de jeûne et qui se passait là-bas. Ils devaient faire un programme d'une semaine de jeûne et prière, passer des délivrances et tout. Et on m'a inscrit dans ce programme-là de façon forcée, suite à ce qui s'était passé après ton décès, pendant ton enterrement. Et après, je suis rentré. Pour moi, j'avais plus pris ça comme une punition. Plutôt que, enfin, à l'époque, hein, c'est comme ça que je l'ai pris. Même si ses intentions, elles étaient bonnes, mais moi, je l'ai pris comme une punition. Je l'ai vraiment très mal vécu, ce qui s'était passé. Donc voilà, elle croyait que j'avais des esprits maléfiques qui me possédaient et tout, et que ton esprit était là et tout, mais au fond, toi, tu vis dans mon cœur, quoi. Ça n'avait rien à voir avec tout ça. Donc voilà, après une semaine passée loin de la maison, je rentrais, je retrouvais la réalité d'après ta mort qui n'était pas super du tout. Tout le monde était parti, chacun gérait sa douleur de ta perte à sa façon, et moi, je commençais ma descente. Une chute libre, sans personne, pour me rattraper. J'enchaînais les échecs scolaires. Je suis devenu un pickpocket. Je prenais beaucoup d'alcool au passage. J'avais vidé toute ta réserve d'alcool en une semaine. L'État nous a laissé occuper encore la maison où on était, ta maison de fonction, jusqu'à la fin de l'année. À la maison, j'avais plus personne. Maman et son fils, ils pouvaient me punir maintenant comme ils voulaient, hein. J'étais à leur merci. Hélène était repartie à Brazzaville, Karen chez tante Flavienne. Et Raïssa, elle vivait la chose pour elle à sa façon, quoi. Et tu te rappelles de cette fille-là qui était venue à la maison avec sa maman, prétextant que je déroutais sa fille, que j'étais en compagnon de mauvaises mœurs et tout. Elle ne voulait plus de moi. Après ta mort, j'étais plus un fils à papa, tu sais. J'avais perdu des amis en temps, je venais d'avoir 15 ans, et maman avait quand même organisé un petit repas pour moi à la maison avec quelques amis qui étaient toujours là, qui sont devenus des frères pour moi aujourd'hui. Et ce jour-là, on avait organisé le premier repas des 12, c'est comme ça qu'on s'appelait. Nous étions donnés à notre petit groupe le nom des 12, et on avait défini un plat qui devait jamais manquer à chaque anniversaire de notre petit groupe. Un plat d'haricots à la sauce tomate, du riz et du poulet. À côté de ça, je ne faisais que devenir un cauchemar ambulant pour maman, un petit vagabond. Ulrich, lui, ne parlait plus. Je lui avais bien fait comprendre qu'il était un grand frère en carton, qu'il représentait rien pour moi. J'étais vraiment devenu un cauchemar ambulant pour tout le monde. Je savais même pas ce que je voulais devenir, je savais même plus ce que j'allais devenir. Je redoublais de classe à la rentrée. Je devais à la rentrée. Ça me disait absolument rien, en fait. Ça me disait absolument rien. Tous mes amis allaient au lycée et moi je reprenais le collège. Maman ne plus savoir quoi faire de moi. Je me disais après tout, elle m'aime pas. Quand t'es mort, pour moi, maman me disait qu'elle m'aimait pas. Le seul enfant qu'elle aimait, c'était Ulrich. Moi, je comptais pour du beurre. Et donc, après ça, je me disais plus rien. Et tu sais, un soir, j'ai surpris Karen avec le chauffeur de l'ambulance qui vivait juste dans la parcelle d'à côté. Chauffeur de l'ambulance de l'hôpital à Cissé. Je les ai surpris dans sa chambre puisque c'était un grand que je fréquentais. Je partais le rendre visite. En arrivant, j'ai toqué à la porte et j'ai vu que Karen était dans sa chambre. Et à travers la fenêtre, j'ai vu qu'il faisait des trucs. Et moi, ça m'a énervé. Et pour me venger de lui, je suis repassé après. Il était absent. Un soir, tard la nuit, je savais qu'il était parti en mission. Je lui ai piqué sa chaîne IFI et je suis allé le faire garder chez un de ses amis pendant près de 5 mois. Et j'ai fini par me faire choper parce que ce chauffeur, il était allé chez son pote là, avec qui j'étais aussi, qui était aussi un de mes grands. Et il avait trouvé sa chaîne IFI là-bas, lui a demandé, mais où est-ce que tu as eu ça? Et il lui avait dit que c'était moi qui l'avais fait garder. Et ça avait quand même pris un petit coup et tout ça là. Et il était venu à la maison, il est venu dire à maman que voilà ce que ton fils a fait et tout ça là. Et déjà que 2 semaines plus tôt, maman a failli me tuer. 2 semaines plus tôt, elle s'était prise à moi sur un excès de rage. Elle avait découvert que j'avais vidé ses économies parce qu'elle vendait maintenant les beignets, tu sais, devant la maison et tout. Et moi, je piquais tout son argent qu'elle récupérait de sa vente des beignets et tout. Et sous un excès d'orage, j'étais allongé sur le canapé. J'étais grave malade. J'avais, je crois, le palu. Elle a pris le bâton du mortier. Elle m'a frappé avec sur la poitrine. Mais du coup, et quand il y a eu cet événement, je me suis dit, bah là, elle va carrément me tuer. J'ai fui la maison. J'ai fui la maison pendant 7 jours. J'ai dormi dans la rue. Parfois je dormais devant des villas, du centre-ville à la plage. Le matin, la journée, je la passais à l'école, puisque j'étais au collège technique, là au CTI, au collège public. Donc la journée, je la passais à l'école, je me baladais partout, je partais manger avec des amis chez eux. Et le soir, bah, j'avais mon sac d'eau, je rentrais partout. J'essayais de trouver un endroit où dormir. Et la plupart du temps, durant les 7 jours, je partais dormir dans les locaux de ton bureau, là où se trouvait ton bureau. En fait, le gardien me laissait parfois passer. Et un matin, Karen m'a retrouvé. En fait, je partais à l'école, elle m'a retrouvé et m'a ramené à la maison. Et oui, papa, j'étais devenu un petit voleur de quartier et j'avais couvert maman de honte. Et ça avait dû la pousser vraiment à déménager vite fait, parce qu'au départ, elle cherchait à garder la maison. Elle faisait des démarches pour chercher à ce que on la laisse occuper la maison tant qu'elle était en fonction et tout. Mais on a dû déménager, voilà. J'ai continué à faire des conneries. Mais je te raconterai la suite de ce qui m'est arrivé dans le prochain épisode. Mais sache que lorsque je t'ai perdu, j'étais plus que l'ombre de moi-même. Et je savais plus quoi, ce qui allait m'arriver avec un avenir sombre. Mais heureusement que j'ai quand même réussi à trouver ma voie. Je te raconterai lorsque on va se reparler la prochaine fois. Je pensais que j'étais une grosse déception, Mais au final, je suis devenu quand même la plus belle fierté de maman. Et elle a fait du bon boulot. Hein. Elle a fait beaucoup de choses. Elle en a beaucoup bavé, maman, tu sais. Elle a vraiment bavé. Je te raconterai au prochain épisode. J'ai beaucoup de choses à te dire, papa. À bientôt.